Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Alliance Plus, Radio Alliance Plus qui nous permet de vous faire découvrir une nouvelle émission, Chemin Huguenot. Au fur et à mesure que nous avancerons dans le temps, vous découvrirez ce chemin et aussi les Huguenots qui habitent, en fait c'est des concitoyens qui habitent notre territoire et qui vivent en communauté. C'est une communauté, pour certains ça peut être une communauté culturelle, d'autres une communauté de foi. En fait c'est ce qu'on appelle les protestants. Ces protestants qui ont une longue histoire et qui continuent à vivre cette histoire au quotidien avec des activités, avec des engagements, que ce soit au niveau culturel, la musique, les expositions, des rassemblements, des temps de réflexion, des temps aussi de se pencher sur ce qui est le moteur du vivre ensemble tout autour de ce territoire dans lequel nous sommes. Et pour commencer cette émission, j'ai invité avec moi donc un des pasteurs qui intervient sur ce secteur, c'est le pasteur François Bergougnan. Bonjour.
Bonjour Edouane.
Voilà, pour commencer, alors, on dit les Huguenots, le chemin des Huguenots, vous savez, pendant très longtemps, en fait, les Huguenots, ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus pour la liberté d'expression, la liberté de réfléchir, la liberté de croire, la liberté de prendre des chemins, l'école buissonnière de la foi.
Des chemins de traverse.
Des chemins de traverse, voilà. Et ces chemins de traverse, en fait, leur GPS, c'était le texte biblique, c'est-à-dire une sorte de réflexion, ça peut être une approche culturelle, c'est ce qu'on fait pas mal d'artistes en s'inspirant du texte biblique, et pour peindre des scènes qui aujourd'hui donnent à voir un autre regard sur notre histoire, l'histoire de l'humanité. Alors, on va vous inviter à une réflexion de la parole du jour. Alors la parole du jour que nous vous proposons ce matin se trouve dans l'évangile selon Marc et c'est François qui va vous lire un extrait de cet évangile.
Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils viennent à Jéricho et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin.
Alors voilà ce texte, évidemment, quand on dit évangile, ça fait référence à un livre dont s'inspirent les chrétiens de toute origine, de toute sensibilité, qu'on soit catholique, orthodoxe, protestant, évangélique. Et ce texte biblique est en fait une manière de regarder à la fois le passé, mais surtout une grille de lecture pour le présent. Bartimée, vous savez, on est nombreux à être des Bartimées. Beaucoup de Bartimées sont dans nos rues. C'est en fait toutes ces personnes qui sont frappées par la misère. Et au moment où on va s'ouvrir les Jeux Olympiques pour les handicapés, c'est une question qui est assez importante parce que Bartimée, qui est aveugle, se trouve en marge de la société.
Et comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, notre émission Chemin Huguenot est un moyen d'ouvrir les yeux et de porter un nouveau regard sur la vie que nous menons dans nos Cévennes. Et changer de regard, ouvrir les yeux, porter un nouveau regard, et ben, c'est bien toute la question que pose ce texte dans l'évangile de Marc.
Voilà. Bartimée, en fait, c'est un homme qui n'a rien à perdre. Ce manteau, qui est son seul abri et sa seule sécurité, il va le jeter. Et on peut se poser la question, depuis combien de temps est-il assis cet homme au bord du chemin à attendre ce moment, c'est-à-dire ce moment de libération. Et il veut à tout prix saisir sa chance pour sortir de sa condition d'aveugle. Cette condition qui le fait reclus et destiné à mendier son pain pour survivre. Contrairement à l'homme riche qu'on trouve aussi dans le texte biblique, dont nous ne savons d'ailleurs pas le nom, il devient en fait cet homme disciple. Parce que sa foi l'a sauvé. Alors on peut dire la foi en Jésus, la foi en Dieu, mais ça peut être aussi en la foi dans la vie. C'est cette foi qui croit que tout est possible quand on écoute ce cri qui surgit du plus profond de soi-même.
Oui, et même dans notre langage courant, être aveugle ne se limite pas au problème de la cécité biologique ou physique. Être aveugle, on dit, on a une expression, l'amour rend aveugle, parce que l'amour nous empêche de voir quelques petites choses. Donc être aveugle, c'est beaucoup plus large que ce problème de cécité. Et souvent, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous parce qu'on est préoccupé par d'autres choses ou alors on pense que l'on vit des situations tellement difficiles que les autres, on ne s'en occupe plus. Et je crois que ce texte biblique, justement, nous ouvre les yeux sur les autres, sur la condition, sur les conditions des autres, les conditions de vie.
Voilà, c'est un texte qui donne à réfléchir sur la manière de se libérer de ses dépendances, de ses aveuglements, de ses conditionnements. Et c'est alors que surgit la rencontre, le face-à-face, et c'est là que se produit un miracle, on va dire. Le miracle, c'est être rétabli dans sa pleine dignité d'homme, de femme, debout, vivant, libre, le regard clairvoyant et en chemin, vers le chemin de la vie. Voilà, de retour après cette virgule musicale pour vous faire découvrir quelque chose qui me tient à cœur en fait, parce que je ne suis pas comme Obélix tombé dedans dans cette culture biblique. Et souvent, lorsque je discute avec les uns et les autres, on se demande, mais quelle est la signification qu'il y a derrière ? Par exemple, il y a des expressions comme vieux comme Mathusalem. Hein, ça fait partie du texte biblique. Et il y a une autre expression, c'est la signification du nombre 40 dans la Bible. 40. 40, en fait, c'est le nombre le plus utilisé dans la Bible. C'est le nombre de la foi. C'est le temps de l'épreuve, le temps qu'il faut pour approcher Dieu. C'est un peu pour faire répondre à son appel. Et cette référence des 40 ans fait référence à ces 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert, mais aussi 40 jours que Jésus a passé dans ce même désert. Et les écrivains aiment les nombres symboliques, les écrivains bibliques. 7 indique la plénitude, 4 les points cardinaux, la création, 12 les tribus d'Israël, les apôtres, etc. Un autre revient plus que 90 fois dans la Bible, c'est le nombre 40. On n'en connaît pas en fait très bien l'origine, il pourrait correspondre à l'âge de la maturité. C'est à 40 ans qu'Isaac et Ésaü se marient. C'est l'âge d'Ishbohet quand il devient roi. C'est Absalom quand il cherche à prendre la place de son père David. C'est aussi la durée du règne des rois les plus respectés. David, entre autres, Salomon, Joas. Donc vous voyez, le nombre 40 peut aussi indiquer une durée type qui serait l'équivalent d'un certain temps. Dans le récit du déluge, par exemple, la pluie se déverse pendant 40 jours et 40 nuits. C'est aussi la durée de l'embaumement de Jacob, ou encore la durée pendant laquelle le fameux Goliath, vient défier les Israélites.
Oui, et 40 dans nos vies d'aujourd'hui, 40 c'est une génération. C'est aussi quand on passe 40 ans, il y a une nouvelle génération qui naît, c'est un jeune qui devient adulte ou c'est un adulte qui devient vieux ou plus mûr. Donc c'est vraiment un changement de génération. Quand on entend 40 ans, quand les Israélites sont restés, les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert, bah finalement, ceux qui sont repartis dans le désert, c'est peut-être pas ceux qui sont arrivés dans le désert. Il y a ce changement de génération, donc un changement d'identité, un changement de pensée, un changement de culture, peut-être aussi.
Oui, tout à fait, un changement qui permet, en fait, de ne pas reproduire le passé. Donc il faut vraiment une génération pour changer de mentalité, et je pense que c'est quelque chose qui traverse le temps et qui va au-delà qu'on soit croyant ou pas croyant. C'est la manière dont le texte, qui est le texte, c'est la réflexion d'hommes et de femmes qui ont vécu une expérience et qui ont essayé de témoigner de cette expérience. Alors ça c'est intéressant parce que récemment je lisais qu'il y a deux temps particuliers dans la vie d'un être humain, et c'est deux temps où les choses change, on prend un coup de vieux, c'est à 40 ans, il y a 60 ans.
Et on parle de la crise de la quarantaine.
Voilà, la crise de la quarantaine. 40 ans, 40 jours, et puis ma foi, la vie est devant nous.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenez.
Voilà, toujours sur Radio Alliance Plus, après avoir écouté Lavillier, cette belle chanson qu'il nous a présentée, L'espoir. Toujours, c'est très important pour par les temps qui courent, toujours au micro Redouane Esbanti et puis en compagnie de François Bergougnan. François Bergougnan, c'est sa première émission radio sur Radio Escapade. Il disait qu'il ne connaissait pas la radio. Donc c'est la radio qui va faire sa connaissance. Et on va essayer de découvrir qui est cet homme qui intervient sur ce territoire entre les Dignan, Quissac, les Anges.
Jusqu'à Anduze.
Jusqu'à Anduze. Mmh. Alors François Bergougnan, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Et... Alors, vous avez une particularité, c'est ce qu'on appelle des vocations tardives. C'est quoi une vocation tardive ? C'est comme les, quand on ramasse le la récolte tardive du raisin.
C'est comme, c'est comme le vieux raisin qui est plus sucré, oui.
Voilà.
Non, une vocation tardive, eh bien, effectivement, c'est quand on devient pasteur, non pas juste après le bac, comme dans des études traditionnelles. Il y a quelques années, on devenait pasteur... après avoir fait des études de théologie dans le prolongement du bac. Donc avant, on faisait 5 années d'études, voire 6, voire un peu plus pour ceux qui voulaient faire un doctorat en théologie. Mais on était pasteur à 25 ans, on va dire, en moyenne. Pour les vieux pasteurs, c'est comme ça que ça se passait traditionnellement. Et puis, la tradition a un petit peu changé. Et je fais partie de la génération des pasteurs qui ont eu une vie professionnelle avant. Et moi, j'étais ingénieur en microélectronique, j'avais un doctorat en microélectronique et j'ai travaillé dans des start-up, dans diverses entreprises de microélectronique de la région de Grenoble et puis d'Aix-en-Provence et puis à l'étranger également. Et petit à petit, alors je ne suis pas comme Luther, la foudre ne m'est pas tombée dessus.
Il n'y a pas un court-circuit.
Il n'y a pas eu de court-circuit. Mais petit à petit, je me suis toujours intéressé à ma culture familiale protestante. Je suis tombé dedans sans être tombé dedans parce que dans la famille, nous n'avions pas l'habitude de prier à table, de lire la Bible à table. On vivait notre protestantisme d'une façon très... souple, légère, on va dire. Et on allait, mes parents, mon père m'emmenaient au culte le dimanche matin. Et ceux qui, quand j'étais enfant, et ceux qui partaient au culte avec notre papa avaient le droit d'aller choisir les gâteaux pour le dessert dans la pâtisserie. Donc c'était un peu la
c'était
carotte.
Motivant,
c'était très motivant pour aller au culte. Donc vous voyez, ça repose sur pas grand-chose. Et puis, au fil des années, j'ai eu des enfants, je me suis marié, on a eu une expérience de vie qui a fait que je me suis posé des questions sur le sens de la vie, tout simplement. Et ma culture protestante, ça a fait que j'ai essayé de faire le lien. Qu'est-ce que c'est que croire en Dieu quand on vit avec des enfants, quand on vit à l'étranger, qu'est-ce que ça signifie ? Et petit à petit, j'ai commencé des études de théologie par correspondance avec la faculté de Montpellier, mais juste pour ma culture personnelle, pour approfondir ma foi. Voilà, on peut simplifier la réponse comme ça, pour approfondir ma foi. Et les circonstances de vie ont fait que, à 50 ans, j'ai fait le choix de faire cette reconversion professionnelle. De suivre ces cours d'abord par correspondance et ensuite en présentiel avec la faculté de Montpellier, et tout ça pour devenir pasteur à l'âge de 58 ans et à 57 ans, et ça fait 4 ans maintenant que je suis pasteur pour l'Église protestante unie de France dans l'ensemble entre Gardon et Vidourle, et plus spécifiquement sur les secteurs de Lédignan, les Anges jusqu'à Anduze, Tornac, un très très joli secteur proche des Cévennes.
Alors vous parlez de start-up, donc vous avez bossé dans une start-up. Est-ce que l'Église est une start-up aussi ? Est-ce que votre approche du travail, est-ce que c'est des clients ? Est-ce que c'est des réalités humaines auxquelles vous êtes confrontés ? Et comment est-ce que ces réalités humaines, c'est-à-dire à la fois la joie, la tristesse, les moments un peu difficiles aussi, c'est-à-dire les décès, comment est-ce que vous aborder ces aspects de la vie ?
Alors, je ne dirais pas que l'Église est une start-up, surtout l'Église protestante unie de France, qui est une vieille Église, au sens, une Église historique qui existe depuis très longtemps, qui était l'Église réformée de France avant. Donc, c'est une Église qui existe depuis longtemps. La particularité d'une start-up, je dirais, c'est plutôt, ça serait plutôt une Église qui a une idée théologique et qui partirait sur cette idée pour essayer de développer son Église. Donc je ne crois pas que l'Église protestante unie de France soit une start-up si on veut faire le parallèle avec une entreprise. Néanmoins, je trouve que nous avons localement une vie de start-up parce que moi, en tant que pasteur sur mon secteur, eh bien, finalement, je suis libre de prendre des initiatives au même type qu'une start-up le ferait pour essayer de développer quelque chose, de chercher quelque chose. Et puis, il faut aussi être prêt à abandonner le projet que l'on a essayé si on voit que ça ne marche pas. Donc, localement, peut-être, oui, on est un peu une start-up. On pense souvent que le pasteur est livré à lui-même et qu'il est tout seul. Et c'est vrai, je suis seul sur mes 17 villages, 17 temples qu'il faut animer tout au long de l'année. C'est l'avantage d'être aussi dans l'ensemble entre Gardon et Vidourle, et de pouvoir aussi collaborer avec quelques collègues, donc avec Redouane, qui est mon collègue sur Saint-Hippolyte-du-Fort, et également Agnès Daudet, qui est sur Quissac, qui est actuellement en congé de maternité. Mais on est quand même trois pasteurs sur ce grand ensemble, et nous collaborons, nous faisons des choses ensemble, et puis nous faisons aussi des choses séparément, parce que nous avons chacun nos particularités théologiques, et c'est très bien. On fonctionne ensemble et on apprend à vivre ensemble avec nos différences.
Un poète disait, et ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, est-ce qu'il y a une dichotomie entre les croyants et puis le citoyen ? Ou est-ce que c'est le citoyen participe avec son background spirituel aussi au combat de la vie sociale de tous les jours ?
Mais je crois que c'est la particularité du protestantisme, c'est que on fait pas cette différence. Il n'y a pas cette différence croyant et puis la personne qui travaille dans la vie. Je crois que le protestant est croyant et essaye d'appliquer sa foi, sa croyance dans sa vie de tous les jours. Et là, je prends l'exemple, on arrive à la période des vendanges, par exemple, sur nos secteurs paroissiaux. Et bien, nos paroissiens ne viendront pas au culte le dimanche matin parce qu'ils sont occupés par les vendanges. Et la vie de tous les jours est première. On travaille dans la vie. Et le culte n'est pas quelque chose de secondaire, c'est un outil qui vient nous accompagner dans notre vie quotidienne, dans les événements familiaux qui arrivent, mais la priorité c'est quand même la vie de tous les jours et il faut accompagner ces gens-là. Et c'est voilà, ça, c'est l'intérêt de ce travail.
On pourrait dire que ce qui fait partie de l'ADN du protestantisme, c'est que la spiritualité est quelque chose de personnel, mais on est aussi agissant dans la vie quotidienne. Je pense par exemple au pasteur Rabault-Saint-Étienne, très peu de gens le savent, a été élu de la République, et c'était celui qui a rédigé la déclaration des droits de l'homme, la première déclaration des droits de l'homme française, et que aussi certains élus protestants se sont battus pour la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, comme disait Jean Jaurès, l'État doit veiller à ce que la religion puisse exister tant que la religion ne s'occupe pas de l'État.
Oui, tout à fait. Mais je crois, à l'occasion des entretiens pastoraux que je peux avoir, à l'occasion d'obsèques, de mariages, de baptêmes, les gens souvent sont prudents au début, ils sont peut-être même un peu timides, ils me disent ah ben, excusez-moi, on est croyant mais on vient pas au culte tous les dimanches. Et très rapidement je leur dis, mais rassurez-vous, un bon croyant c'est pas celui qui est sur les bancs du temple tous les dimanches. Un bon croyant c'est celui qui est capable d'appliquer sa foi tous les jours, et s'il n'est pas au culte le dimanche, ben tant pis, mais il peut quand même vivre sa foi le dimanche matin en préparant le repas de famille.
Ouais, mais c'est bien d'avoir un temple bien plein,
mais c'est bien agréable pour le pasteur d'avoir quelqu'un.
C'est justement, alors dans ce qu'on dit, qu'est-ce que fait un pasteur, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Je crois que vous avez aussi des actualités qui permettent d'avoir un éclairage sur différents temps forts sur ce secteur de l'ensemble au Vidourle.
Oui, oui. C'est vrai que notre église a la particularité d'avoir une grande histoire locale dans les Cévennes et dans la région. Et nous aimons nous remémorer l'histoire locale avec certains événements. Et il y a un grand événement qui va se passer à Durfort au mois de septembre, nous allons fêter les 200 ans de la rénovation et de la construction, la reconstruction du temple de Durfort, un magnifique temple à visiter si vous ne le connaissez pas. Et le samedi 21 septembre, il y aura des visites guidées du village. Il va y avoir des expositions au temple, une exposition qui s'appelle « Chemin des Huguenots », un peu comme notre émission de ce matin. Et puis une autre exposition au foyer communal, « Les protestants célèbres dans le Gard ». Et toutes ces expositions permettront de mieux connaître le paysage huguenot ou protestant dans nos régions. Et il y aura une conférence le même jour, donc le 21 septembre, une conférence sur les chemins huguenots. Et le dimanche 22, il y a un grand culte dans le temple de Durfort à 10h30. Ce culte sera présidé par le pasteur Gilles Vidal, qui est également professeur d'histoire à la faculté de théologie à Montpellier. Donc ces deux jours sont des occasions uniques pour... Quoi, uniques non, puisqu'il y a d'autres occasions, mais c'est quand même des moments forts pour découvrir le protestantisme. Et si nos auditeurs se posent des questions sur le protestantisme, ne connaissent pas, mais aimeraient découvrir, ces deux jours sont des moments vraiment merveilleux, je pense, pour venir découvrir, discuter, rencontrer et voilà, faire un peu plus connaissance avec ces protestants dont on entend parler, mais qu'on ne connaît pas toujours.
Voilà, c'est l'actualité, un des temps forts. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, il s'agit de se rencontrer. Le vivre ensemble, c'est se connaître. Connaître les protestants, connaître les catholiques, connaître les musulmans, connaître aussi la communauté juive et ceux qui ne croient pas particulièrement au ciel. Oui. On cherche un mouvement qui libère des esclavages auxquels nous sommes soumis, la consommation, il y a un tas tellement de chaînes que nous nous mettons dessus qu'il est très important de faire connaissance des uns des autres parce que la connaissance de l'autre supprime la peur et ça nous permet aussi dans notre département qui parfois part à la dérive d'être vigilant.
Et j'allais oublier un autre événement important. Cher Redouane, puisque c'est le culte qui vous accueillera officiellement dans l'ensemble entre Gardon et Vidourle. Et ce culte aura lieu le dimanche 29 septembre au temple de Saint-Hippolyte.
Merci. Oui, ça sera l'occasion de faire connaissance et d'échanger, de se parler, de se découvrir. Voilà, c'était notre première émission Chemin Huguenot avec donc le pasteur François Vergugnon. Vous avez pu découvrir tout ce qu'il fait et tout son parcours. Voilà, notre émission se termine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer toujours sur le chemin du Huguenot, de nouvelles découvertes, nouveaux témoins, nouvelles paroles du jour et puis aussi découverte de chansons. Merci à Siam Radio Escapade pour la technique ainsi qu'à lui de Radio Alliance Plus. Bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous écoutez cette émission et puis on vous donne rendez-vous à la prochaine.
À la prochaine émission. Merci Redouane pour cette invitation et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.